À quelques jours du 176e derby de Rome, l'After Italy replonge dans le passé de cette rivalité quand les deux clubs de la capitale dominaient la Serie A. Avec cette question, préférez-vous la Lazio 2000 ou la Roma 2001, toutes deux championnes d'Italie à un an d'intervalle.
RMC After Italy.
Jérôme Sillon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Italy. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et notamment sur After Télé. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre une note et à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des joueurs, des clubs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame, Daniele Manoussia. Ciao Daniele.
Ciao. Ciao tout le monde.
Et avec Loïc Moreau, salut Lolo.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Tu vois que Daniele a annoncé la couleur déjà.
Ah, direct, direct. Mais j'en attendais pas moins de lui. Hein. Et d'ailleurs, on a équilibré avec un petit maillot de la Lazio et un maillot très moche de la Roma.
Quand Rome dominait la Serie A au tournant des années 2000, la Lazio et la Roma possédaient des équipes exceptionnelles. Mais laquelle était la plus forte, la Lazio 2000 ou la Roma 2001? On va vous poser la question et se poser la question tout de suite dans l'After Italy. Mais d'abord, avant de présenter les deux équipes, on va peut-être parler du contexte du moment à l'époque. Daniele, est-ce que Rome, est-ce que la capitale dominait vraiment le football italien?
Oui, à cette époque-là, oui, parce que il y avait les joueurs les plus intéressants du championnat italien. La Lazio, notamment, ça faisait quelques années qu'elle avait bâti cette équipe, qu'elle est arrivée à gagner le championnat en 2000, mais même les saisons d'avant où elle n'avait pas gagné le championnat, c'était une équipe très très forte, très très performante. Il y a des joueurs que tout le monde connaît, on ne va jamais les oublier. Moi, je me souviens, j'étais post-adolescent, c'est-à-dire j'avais 17-18 ans, et c'était difficile parce que moi, j'étais supporter de la Roma, comme je le montre maintenant. C'est un thème chaud en Italie, parce qu'en Italie, les journalistes, ils font semblant de ne pas avoir jamais supporté aucune équipe. Moi, je pense que ça donne un point de vue, mais ça n'empêche pas d'être objectif. Moi, j'étais objectif même quand j'avais 18 ans, parce que mon père, il était supporter de la Lazio, je l'ai déjà raconté d'ailleurs, donc il me chamardait toutes les semaines. Et quand la Lazio l'avait acheté, Christian Vieri, par exemple, mais moi, j'étais triste pour 2 mois, mais même plus, parce que c'était mon joueur préféré avant, quand il était à l'Atlético de Madrid. Donc imaginez qu'il arrive dans l'autre équipe, je le rencontrais en plus dans la ville, un jour, dans un salle de jeux vidéo, un jour où j'avais séché l'école. Donc, c'était une époque où les deux équipes, c'était très important. Et c'était pas, peut-être il y avait moins de gens dans Rome, je ne sais pas. Mais on avait l'impression que les équipes, elles étaient plus proches. Et on le vivait avec plus de passion, moi, je trouve, qu'aujourd'hui, par rapport à toute la ville. Et en plus, oui, il y avait les succès. Parce que la Lazio, elle arrivait à gagner. La Roma, elle arrivait à gagner juste après. Et après, on a compris juste après tellement que ça aurait été difficile de répéter ça.
Il y avait cette fierté de dominer les clubs du Nord, et notamment la Juventus et les deux clubs de Milan, j'imagine, aussi à l'époque.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a la rivalité entre les équipes du Nord et les équipes de Centre-Sud, aussi Naples, et elle est là toujours. Les supporters de la Roma et de la Lazio, sûrement, ils n'ont pas supporté Naples, mais les supporters moyens, ils sont quand même plus contents que c'est Naples qui gagne plutôt que Milan ou Juventus. C'était une époque dorée. Après, je pense qu'on va parler aussi de sur quoi elle était basée, cette époque dorée. C'était un peu basé sur... elle n'avait pas des fondements solides. C'était un peu une maison bâtie un peu sur l'eau. Mais c'était vraiment un moment exceptionnel. Et qu'en plus, il faut dire, même avant, quand la Roma, elle était importante, par exemple, dans les années 80, elle n'avait pas atteint les niveaux qu'elle attend en 2000.
Ouais. Alors la Lazio, commençons par la Lazio parce que c'est la première de ces deux équipes, je vais y arriver, qu'on va comparer et qui a été sacrée championne d'Italie lors de la saison 99-2000. Et l'homme fort à l'époque, Lolo, s'appelle Sergio Craniotti, le président.
Ouais, en fait, il est à la tête de la Cirio, qui est le cinquième plus gros groupe d'agroalimentaire en Italie. Et c'est un homme qui a beaucoup de sous, notamment grâce à son succès dans les affaires, on y reviendra, et qui va investir massivement. Il va commencer dès le début des années 90, il est arrivé à la présidence de la Lazio en 92, et c'est vrai qu'il va tout de suite recruter des grands noms. On pense notamment à Paul Gascoigne, qui est le fantasque attaquant anglais, donc il a ramené à la Lazio.
Milieu de terrain.
Oui, milieu de terrain attaquant. Bon, voilà, un très très bon joueur en tout cas, qu'il a ramené à la Lazio. Beppe Signori aussi, par exemple. Enfin, il va commencer à construire, dès le début des années 90, l'équipe qui, Daniele le disait, va être couronnée de succès, justement, à la fin de ces années 90. Parce qu'on parle du Scudetto donc en 2000, mais il y avait déjà des signes avant-coureurs. La Lazio est finaliste de la Coupe de l'UEFA contre l'Inter au Parc des Princes, donc en 98. La Lazio remporte la dernière édition de la Coupe des Coupes contre Mallorca. Donc, c'est pas arrivé comme ça, c'est-à-dire que Sergio Craniotti a vraiment construit les bases d'une équipe qui était censée être dominante à la fois sur la scène nationale et sur la scène internationale durant un tout petit peu plus d'une décennie de son mandat.
Quel type de président c'était Sergio Craniotti à l'époque à la Lazio, Daniele?
C'était un peu la version ancienne des présidents italiens, c'est-à-dire le père de famille qui sort l'argent de sa poche pour faire des cadeaux à ses enfants, c'est les supporters. En Italie, on a encore en gros cette idée-là des présidents. D'ailleurs, c'est ce qui fait un peu la distance avec la contemporanéité. Mais ça marchait parce que cette époque-là, c'était une époque où même les petites équipes, on peut se rappeler des succès des Parmes, par exemple, même européennes, ils étaient basés, ou la Sampdoria, par exemple, même avant, c'était basé sur un président avec beaucoup d'argent qui gère comme si c'était l'entreprise des familles. La Roma, c'était la même chose avec la famille Sensi. Et il était très aimé. Je pense que, bon, après là, c'est difficile d'être nostalgique parce que c'est même Craniotti qui a traîner la Lazio avec la faillite de ses entreprises et le fait que c'était Lotito qui l'a sauvé. Lotito qui, en ce moment, s'est considéré par beaucoup de supporters un peu comme, on va dire, un peu une punition divine qui dure depuis plus de 20 ans pour la Lazio. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie par rapport à cette époque-là, par rapport à un président qui, en plus, il était élégant. C'était un peu aristocrate, c'était un peu le stéréotype de la personne riche italienne, tu vois, toujours bronzé, toujours beau. Il avait son enfant qui était pas très brillant, mais qui était dans la société. D'ailleurs, moi, j'ai une anecdote personnelle. Mon cousin, il a joué dans la Lazio, dans les équipes des jeunes de la Lazio, parce que ma cousine, à un certain moment, elle était la copine du fils de Craniotti. Donc, pour vous dire, il n'y avait pas, comment dire, c'était vraiment très familial comme chose.
Ouais, il y avait un petit peu de népotisme visiblement dans cette histoire. Alors, cette Lazio 99-2000, Lolo, on va vous la présenter et après on la comparera avec la Roma 2001. Mais franchement, quand on s'est replongé dans le passé, on s'est dit waouh, quelle belle équipe.
Ouais, quelle belle équipe. Et on l'a dit, la Lazio avait déjà entamé ce cercle vertueux quelques années auparavant. On peut citer Alain Bokchik, Pierluigi Casiraghi notamment, qui avait joué aussi dans cette équipe. Et Daniele l'évoquait, Christian Vieri, qui n'est plus à la Lazio lors de cette saison 99-2000. Pour la simple et bonne raison qu'il a été vendu à l'Inter à l'époque. Alors heureusement pour la Lazio, l'argent encaissé a permis notamment de recruter Juan Sebastian Veron, Diego Simeone aussi qui a fait le chemin inverse, qui est passé de l'Inter à la Lazio. Enfin, c'est vraiment une belle équipe hein, et on voit un mixte entre des joueurs italiens de talent, notamment Alessandro Nesta pour ne citer que lui. Après, c'est sûr que c'est surtout, il n'y en a pas énormément hein, c'était une équipe aussi un peu Benetton, mais voilà, des joueurs qui sont ensuite devenus des ballons d'or comme Pavel Nedved, des joueurs et entraîneurs de talent comme Sergio Conceição. Et c'est une équipe très équilibrée, très, très talentueuse qui sort donc aussi d'une victoire en Coupe des Coupes hein, contre Manchester United, le Manchester United de 99. C'est vraiment une équipe qui est solide.
Une équipe avec l'accent sud-américain. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette équipe, toi, Daniele, en tant que supporter de la Roma? T'étais jaloux à l'époque?
Pas jaloux, c'est-à-dire il y avait beaucoup de, comment dire, des conflits, de haine. C'était des derbies aussi très très passionnés. On s'en souvient de, par exemple, du clash entre Simeone et Cafu, l'arrière droit de la Roma. La Lazio, c'était plutôt une équipe argentine et la Roma, c'était une équipe brésilienne. Donc il y avait aussi ces conflits-là entre sud-américains. Mais si vous regardez ces noms-là, ces joueurs-là, Mihailovic, Veron, Conceição, Simeone, Nedved, c'était les charismes. C'est une qualité d'ailleurs que je pense qu'aujourd'hui, on regarde pas, on cherche pas trop dans les joueurs, parce qu'on cherche plutôt des joueurs un peu plus robotiques, qui font ce qu'on leur dit. Mais là, c'était des hommes, même s'ils avaient 25 ans, 23 ans, c'était des hommes avec des caractères qui prenaient des décisions qui, sur les terrains. On le voyait et c'était difficile d'avoir affaire avec eux. En plus, c'était l'enfer parce que, comme tu l'as dit, Loïc, la Lazio, elle avait Vieri, il le vend, il arrive Salas, personne connaissait Salas. Mais c'était l'enfer, c'était un joueur infernal. Il marquait des buts, pas possible, il avait une intensité incroyable. Et c'était vraiment un moment où, en Italie, tu piochais n'importe où et tu avais le meilleur des meilleurs. Et la Lazio, elle était très forte toujours, en plus, à choisir les joueurs. Avec du potentiel. Après, elle avait des petits côtés faibles, surtout la défense. On voit le Paolo Negro qui jouait arrière droit. Et ça, en regardant cette équipe-là, on se demande mais comment c'était possible qu'ils n'avaient pas trouvé quelqu'un de. Il est très aimé par les supporters d'ailleurs. Il est encore dans les tribunes. Il fait partie des supporters
c'est
de
quoi,
la Lazio.
C'est quoi, c'est un joueur qui était formé à la Lazio si... C'est un joueur du cru?
Non, même pas. C'est juste un joueur qui a joué longtemps à la Lazio. Mais qui, par exemple, il a marqué un but contre son camp dans un derby, un très joli but, parce qu'il a vraiment mis la balle dans un plan lucarne, mais dans les mauvais buts, avec les pieds. Donc, c'était assez incroyable. Mais il est très aimé, c'est une équipe très aimée. Nesta, c'était le capitaine, c'était un joueur roman, c'était l'anti-Totti, on va dire, même s'il était timide, il n'était pas dans les conflits, il était moins extroverti que Totti. Donc, c'était aussi... Pour ça, il représentait un peu la Lazio, parce que les supporters de la Lazio disent toujours que les Romains, c'est des bourrins, qu'ils font du bruit, ils fêtent avant de gagner les choses. Lorsque eux, ils sont élégants, ils sont calmes et ils savent quelle est leur place. Donc voilà, il y avait tous ces conflits-là qui faisaient que c'était vraiment beau et magnifique à voir. Moi, je pense aussi de l'extérieur, aussi de Milan, aussi de Naples.
Ouais. Quel souvenir tu en gardes, toi, Lolo, par exemple, de cette équipe de la Lazio, ça te parle?
Ah ouais, mais ça envoyait du lourd à l'époque. Effectivement, limite, tu les regardais avec des étoiles dans les yeux, parce qu'ils étaient là encore. On a vu que le 11 titulaire, mais sur le banc, t'avais quand même Simone Inzaghi, t'as eu du Fabrizio Ravanelli, t'as eu du Attilio Lombardo. Enfin, il y avait vraiment... c'était complet à tous les postes. Moi, je me souviens notamment de la campagne de Ligue des Champions, où ils affrontent Nantes. Alors, c'est pas forcément la meilleure, mais voilà. En plus, si je dis pas de Daniele, ça doit correspondre à leur centenaire, pas trop loin. Aussi, il y avait le maillot spécial, là, celui qu'on a vu, sponsorisé Cheerio, forcément, avec Ragnotti. Enfin, c'est tout un... Il y a eu, effectivement, une période dorée de cette équipe où, vraiment, déjà, la Lazio était le club le plus représentatif de Rome, en tout cas, sportivement parlant, et même de Serie A, franchement. Et on le verra, les classements sous l'ère Ragnotti de la Lazio sont des classements d'une top équipe de Serie A.
Ouais, on va d'ailleurs se demander aussi, tu parlais tout à l'heure de fondements bâtis dans l'eau pour cette équipe de la Lazio, parce que une fois Ragnotti parti en 2003, c'est la débandade, c'est un petit peu la... Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque à la Lazio, Daniele?
C'était le crack économique de la société, de toutes les sociétés des Ragnotti. La Lazio, elle allait être condamnée à faire faillite. À repartir de la dernière série, de la série. C'est un peu ce qu'il est arrivé à Naples, par exemple, ou à Florence, juste après. Mais à ce moment-là, il est arrivé Lotito, il a fait un plan, il a trouvé un compromis avec l'État. Il s'est proposé de repayer la dette de la Lazio, je suis en train de résumer, mais c'est ce qui s'est passé, pour 25 ans. D'ailleurs, il n'a pas encore fini. Je pense qu'il n'a pas 27 ans, un truc comme ça. Je pense qu'il n'a pas encore fini de payer sa dette en réalité. Et chose qu'on savait, on le savait à l'époque. On savait que ça aurait condamné la Lazio à 20 ans de médiocrité. Parce qu'ils n'auraient pas eu les moyens pour investir plus. Mais c'était ça le choix. Soit la troisième, la quatrième division, soit 20 ans de médiocrité avec le Tito. Après... Peut-être il y avait aussi l'idée, oui, bon, on va faire quelques années avec Lotito, après il va vendre, ils vont repayer le reste de la dette, quelqu'un va arriver. Bah, personne n'est arrivé. Et juste hier, il y avait Altani, l'émir du Qatar, à Rome, en ville, on ne sait pas pourquoi. Et les supporters de la Lazio, ils sont allés avec une banderole, en gros, en lui demandant d'acheter la Lazio. Oui, ils ont fait ça. Ils ont dit urgente, Altani presidente.
Quatre coupes d'Italie, donc, pour l'après Cragnotti, pardon. Et une seule fois deuxième de Serie A, trois super coupes d'Italie. Bon, c'est quand même, ça a quand même continué à garnir un tout petit peu l'armoire à trophées. Petite pause. On passe à la Roma 2001. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Et puis après, on donnera notre préférence entre ces deux équipes, donc mythique. À tout de suite. De retour dans l'After Italy avec Daniele Manoussia, Loïc Moreau. On retourne dans le passé du derby romain avec la Lazio 2000, la Roma 2001. Laquelle de ces deux équipes est la plus forte? On a parlé de la Lazio, de Mihailovic, de Nesta, de Véron, de Nedved, de Salas. Passons à la Roma. La Roma donc qui est parvenue à détrôner la Lazio en 2000-2001. Comment elle a réussi à être championne? Quel était le contexte à l'époque, Daniele?
Alors, le contexte, c'était que la Lazio elle avait gagné son championnat. La Roma, c'était une tragédie ici, pour tous les supporters. C'est la même été, c'est-à-dire le mois de juin, Giuseppe Giannini, le capitaine de l'époque, on l'appelait les princes, parce qu'il était élégant, le numéro 10, c'était en gros le numéro 10 juste avant Totti. Mais si Totti il était puissant, il avait de la vision, il était génial. Giannini, c'était plutôt élégant, c'était plutôt... il avait des touches un peu de classe, mais il n'était pas fort comme Totti, bien sûr. Mais en gros, il a fait son dernier match pour saluer tout le monde. Ça aurait dû être une fête. Ça s'est transformé dans une révolution des supporters qui sont rentrés sur le terrain. Ils ont arraché la pelouse. Ils ont complètement démonté les portes. Juste après qu'un avion des supporters de la Lazio, il est passé dans les ciels. Donc imaginez, ils ont ruiné la fête de Giannini avec un avion qui est passé dans les ciels avec marqué Lazio champion. Et donc les supporters, ils ont fait ça, ils ont demandé à Sensi de répondre à ça, il fallait acheter, ils voulaient Battistuta. Et bon, même pas deux semaines, trois semaines après, je pense un mois après, effectivement, il arrive à acheter Battistuta par la Fiorentina. C'était les meilleurs attaquants de la du championnat à la Fiorentina, c'était ce qu'il manquait à la Roma, parce qu'il y avait Totti, il y avait Montella, il y avait Del Vecchio, mais Battistuta, c'était sur un autre niveau. Et moi, je me souviens très bien le saut qu'il y a eu, la désespération quand Giannini il est parti de Bourgeois, et la fête quand il est arrivé Battistuta de Bourgeois. L'idée, c'était, on va gagner le prochain championnat, on va découdre le scudetto du t-shirt de la Lazio et on le met sur la nôtre. Ça, c'est encore mieux que le gagner comme ça dans une année n'importe laquelle. Donc c'était un peu ça, il y avait la tristesse et l'euphorie.
La revanche donc prise par la Roma. Quelle était donc cette équipe? À quoi ressemblait-elle, Lolo, cette équipe de la Roma 2000-2001?
Elle avait de la gueule, alors peut-être un peu moins impressionnante effectivement que la Lazio, mais peut-être aussi avec un collectif un peu mieux structuré, d'ailleurs qui a duré un peu plus longtemps dans le temps. Alors c'est vrai que c'est un schéma un petit peu différent de l'époque. C'est Fabio Capello qui était l'entraîneur de la Roma, qui sortait de saisons difficiles, hein, notamment un retour à l'AC Milan qui avait été catastrophique. Donc il avait perdu un peu de sa super Fabio Capello, mais Franco Sensi, le président de la Roma, lui avait fait confiance et il a réadapté un petit peu, il s'est réinventé tactiquement Capello avec ce système, ce 3-4-1-2 avec évidemment en 10 Francesco Totti. Daniel l'évoquait, donc Battistuta avec Marco Del Vecchio ou Vincenzo Montella, mais bon en général c'était Del Vecchio qui partait titulaire. Et voilà, des noms bien connus, Vincent Candela, effectivement, Jonathan Zibina, ça nous parle à nous Français, des internationaux italiens aussi, Damiano Tomasi, et Daniele l'évoquait aussi tout à l'heure, la touche brésilienne avec Zago, avec Cafu, avec Emerson aussi, qui était, il était un peu dans la rotation entre Cristiano Zanetti et lui. Donc voilà, c'est une équipe qui avait beaucoup de talent, des joueurs qui vont aller aussi très loin, hein, Walter Samuel, après, qui va faire le triplé avec l'Inter, donc une équipe qui a de la gueule aussi, ouais.
Bon, est-ce que c'est l'équipe de la Roma qui t'a le plus enchanté, Daniele, dans ton histoire de supporter?
Ben oui, bien sûr. On a oublié un joueur très important, Emerson, le milieu. C'est lui qui, moi je pense, c'est un peu sous-valué son impact sur la Roma. Oui, c'est l'équipe qui fait rêver. La Roma, il faut dire, c'est pas, il a raison Loïc, les joueurs ils sont plus charismatiques, les joueurs de l'année d'avant de la Lazio, mais la Roma elle jouait bien parce que Capello il avait trouvé les bons mécanismes, même Montella il rentrait toujours dans la deuxième mi-temps, mais il a marqué énormément de buts, je me souviens pas combien, mais une quinzaine, un truc comme ça. Il avait vraiment trouvé l'alchimie et défensivement était très très forte. Parce que peut-être aujourd'hui on s'en souvient pas, mais Zago Samuel, c'était son meilleur moment, il était très fort. Zebina, il était athlétiquement très très fort. C'était un joueur de l'époque contemporaine il y a 20 ans. C'était une équipe qui jouait bien, qu'elle s'amusait, qui marquait des buts incroyables. Totti, il était génialissime. Il était très important en plus parce que c'était pas comme si il était génial, mais il faisait quelque chose tous les deux, trois matchs. Non, il jouait bien tous les matchs. Il marquait, il faisait marquer des buts tous les matchs. Vincent Candela, on n'a jamais eu un arrière-gauche fort comme Vincent Candela, je pense, en Serie A. On peut en discuter pour Di Marco, mais Vincent Candela,
on peut en discuter,
c'était génial. Mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi il jouait Lizarazu et pas Candela. Moi, Candela, je l'aimais beaucoup. En plus, il était très attaché à Rome. Il est resté à vivre à Rome. Mais c'était une équipe vraiment des rêves qu'on n'a jamais oublié. L'année d'après, il est arrivé Cassano et là, tout est parti en vrille.
Bon, je précise juste, oui. Jérôme, aussi que bon, on souligne le bon travail de Capello, mais c'est aussi le bon travail de Franco Sensi, donc le boss de la Roma, et de Franco Baldini, qui est un directeur sportif qui est un petit peu iconique côté italien. Ça correspond en plus à la cotation, à l'entrée en bourse de la Roma cette année 2000. Donc il y a aussi tout le club qui a bien travaillé, pas seulement l'entraîneur et pas seulement Rosella Sensi qui deviendra aussi la présidente qui succédera à son père, mais c'est tout le club de la Roma qui a même là pour le coup. Et je prendrais le contre-pied de Daniele quand il disait effectivement, et à juste titre, que la Lazio s'était construite un peu, tu vois, sur un terrain glissant. Là, au contraire, la Roma, elle a posé les fondations. Alors, pour une domination, c'est pas une domination, puisque ça s'est pas concrétisé par des titres à proprement parler sur la décennie suivante. Mais par contre, la Roma s'est imposée comme le deuxième club italien, grâce notamment aussi à tout ce travail qui avait été fait en amont.
Oui, parce que quand on regarde, du coup, après ce titre 2021, on se rend compte que la Roma... En fait, c'était une équipe qui était régulièrement, même pas sur le podium, mais au-delà, en fait. Elle était candidat au titre quasiment tous les ans, non ?
Ah oui, bah après, le Calciopoli a aidé aussi. Hein. C'est vrai que ça a mis la Juve sur la touche. Ça correspondait aussi à un creux du côté de l'AC Milan. Donc, en fait, l'Inter et la Roma étaient à peu près, on va dire, les deux équipes qui se tapaient pour être championnes. On le voit hein, depuis 2001, 9 fois deuxième de Serie A. C'est énorme. Deux Coupes d'Italie, la Super Coupe d'Italie et la Conference League plus récemment. Mais c'est sûr que la Roma a davantage construit sur le long terme que la Lazio, ou après la faillite de Cragnotti en 2003, et ce qu'expliquait très bien Daniele, bon bah après on est dans la médiocrité depuis un peu plus de 20 ans quoi.
Ouais. La Roma à l'époque, donc Daniele, c'était une équipe fiable, une équipe dominante sur la durée aussi, pas que cette saison-là.
Oui, mais il y a effectivement le paradoxe que la Roma elle a gagné moins que la Lazio. La Lazio elle est arrivée à gagner avec des équipes des fois bien plus faibles que la Roma. Et la Roma elle a pas arrivé à gagner des fois pendant des années où on pensait qu'elle avait gagné même le titre national ou d'autres occasions. Elle a bâti l'équipe sur Totti à partir de 2000. Il a bâti en puissance. Il a eu la blessure en 2006, mais il est rentré. Il a changé un peu de position, mais il était toujours très fort. Il est arrivé De Rossi derrière. Il y a eu Cassano. Par contre, jamais s'est reproduite cette alchimie où vraiment chaque partie du puzzle était à sa place. On n'a jamais plus retrouvé un Batistuta, on n'a jamais eu un Emerson avec un Tomasi à côté qui courait. Cette alchimie-là, on ne l'a jamais plus vue. D'ailleurs, Capello, il est parti, on le sait très bien. Il est parti pendant la nuit, c'est aussi ça, c'est une histoire mythique, parce qu'il avait dit qu'il ne serait jamais parti à la Juventus. Il a pris la voiture, au moins, ça, c'est ce qu'il raconte les supporters de la Roma, qui est parti pendant la nuit avec une petite voiture, une petite Mazda, que c'était le sponsor de la Roma. Donc, il y a cette histoire mythique. Donc, c'était une équipe fragile aussi d'un certain côté, et surtout psychologiquement. On n'avait pas l'habitude d'être à ces niveaux-là et on n'avait pas l'habitude à gagner. Et d'ailleurs, on a jamais plus gagné quelque chose d'important après le championnat 2001.
Ouais, le Scudetto, effectivement. Alors du coup, question, Laquelle de ces deux équipes est la plus forte? Lolo, c'est à toi de te mouiller pour commencer.
Bah, en fait, j'ai essayé de regarder un petit peu les derbies, tu vois, durant ces deux saisons, voir s'il y en avait une qui prenait. Alors, parce que pour moi, je vais te dire, c'était Lazio 2000, mais à tous les jours. Mais je me suis dit, quand même, cette équipe de la Roma, elle a vraiment des joueurs comme Totti, comme Batistuta, ça ne peut pas être comme ça balayé, mis sous le tapis. Et effectivement, quand tu regardes les quatre derbies, du coup, qu'il y a eu sur ces deux saisons, je crois que tu en as deux pour la Roma, un nul et un pour la Lazio. Donc dans les confrontations directes, c'était pas si évident que ça. Après, sur le papier, mais encore une fois, c'est jugé uniquement sur le papier, j'aurais tendance à dire la Lazio. Mais, encore une fois, parce qu'il y a toujours des mais, la Lazio, c'est vrai qu'elle gagne son titre au terme d'une saison aussi agitée par la polémique, parce que la Juve perd le titre lors d'un match à Pérouse, alors qu'il pleut des cordes. Colina dit ça reprend, mais ça aurait peut-être pas dû reprendre. Enfin, c'est polémique. La Roma, il n'y a pas trop de polémique. Le titre de 2001, et ça, Daniele peut le dire mieux que moi, il est fêté à domicile contre Parme dans une ambiance mais de zinzin, et c'est vrai que t'es là, t'applaudis dès demain parce que la Roma 2001 effectivement elle méritait carrément ce titre. Donc voilà, je vais rester sur mon jugement premier, Lazio 2000, mais vraiment voilà.
Daniele, même question, est-ce que tu es plutôt Roma 2001 ou Lazio 2000?
Si on prend la Lazio dans les années aussi, juste avant 2000, j'ai dit la Lazio, c'est-à-dire même dans la continuité, ils ont eu plus de joueurs. Ils ont aussi atteint, je pense, un niveau plus haut au niveau européen. Justement, la finale des Coupes UEFA contre Ronaldo, le phénomène, donc ils ont aussi été un peu malchanceux. Mais la Roma 2001 était dominante. Moi, j'ai rarement vu une équipe si dominante en Italie contre n'importe quel adversaire. N'importe quel joueur, on avait sur les bancs Nakata, on n'en a pas parlé, Del Vecchio, c'était un comprimaire, mais il a rendu fou Nesta dans tous les derbies. Donc, c'était vraiment, la magie, elle était plus vers la Roma 2001, si on prend juste l'année de Scudetto.
Et toi alors?
Ah, moi j'avoue que j'ai un petit
faible. Allez, tu vas trancher.
Alors moi j'ai un petit faible au niveau des joueurs, quand je vois Nedved, Veron, Nesta, Mihailovic ensemble, je me dis c'est dingo. Et moi, mon joueur préféré de l'époque, mais c'était à l'époque Fiorentina, c'était Gabriel Batistuta. Donc je vais quand même avoir un petit penchant pour la Roma. C'est pour toi, Daniele, c'est cadeau.
Bon, ben voilà. Merci. Roma 2, Lazio 1.
Bon, merci beaucoup. On attend maintenant le prochain derby. Quand on saura quand il se joue, parce que pour l'instant, à l'heure où cette émission est enregistrée, on ne sait toujours pas. Est-ce que ce sera dimanche? Est-ce que ce sera lundi? Est-ce que ce sera la saison prochaine? On ne sait pas. On verra bien.
Mais
en tout cas,
dimanche
pour
soir.
Bon, peut-être dimanche soir donc. Merci Daniele, merci Loïc. Évidemment, vous nous retrouvez en podcast sur toutes les plateformes. À très vite pour un nouvel After Italy. Ciao.
RMC After Italy.